VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Bangui, bienvenue à notre journal. En RDC, ouverture de deuxième dialogue politique ce jeudi à Kinshasa grâce à la médiation de la Conférence épiscopale catholique du Congo, la CENCO. Ces discussions réunissent d'une part la majorité présidentielle et la frange minoritaire de l'opposition qui a pris part au dialogue de la Cité de l'Union africaine sous la facilitation du Togolais Edem Kodjo et d'autre part le Rassemblement et le Front pour le respect de la Constitution, deux plateformes politiques qui n'ont pas pris part au premier dialogue. Le président Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi, leader de l'UDPS et du Rassemblement, n'étaient pas dans la salle, mais leurs délégués ont pris part à la cérémonie d'ouverture du nouveau forum. L'objectif est de trouver un compromis politique sur la gestion de l'après 19 décembre 2016, date qui marque, selon la Constitution congolaise, la fin du mandat du président Kabila. Dans son allocution, Mgr Marcel Outembi, le président de la CENCO, a appelé les acteurs politiques à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et du peuple congolais. On écoute Mgr Outembi au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Les présentes assises sont organisées justement pour donner aux délégués des trois grandes composantes, majorité présidentielle, opposition et société civile signataires de l'accord politique du 18 octobre 2016 et de ceux qui n'ont pas pris part au dialogue national tenu à la Cité de l'Union africaine, à savoir le Rassemblement, le Front pour le respect de la Constitution et une partie de la société civile. Le précieux temps de travailler ensemble dans un format réduit est composé de 30 personnes. Ce travail portera essentiellement sur l'examen des points de divergence afin d'obtenir des solutions quant à ceux par un large consensus. L'heure est grave. La population congolaise tout entière nous regarde. Raison pour laquelle nous serons tous appelés au cours de ces assises à nous dépasser et à donner le meilleur de nous-mêmes pour offrir à notre cher et beau pays une paix durable, une occasion de consolider la démocratie chèrement acquise et lui éviter un enlisement aux conséquences néfastes.
Monseigneur Marcel Outembi, président de la CENCO en RDC. Au Cameroun, des affrontements ont éclaté ce jeudi à Bamenda, fief de la minorité anglophone du Cameroun dans le nord-ouest du pays, où des manifestants ont voulu empêcher un rassemblement du parti au pouvoir, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Au moins une personne a été tuée pendant les désordres. Bamenda est depuis plusieurs semaines en proie à des manifestations. Une partie de la population réclame plus de considération de la part des autorités pour la partie anglophone du Cameroun. Le témoignage d'Annie Collins, un témoin joint à Bamenda par Abdourahmane Dia.
Oui, la tension baisse petit à petit dans les rues de la capitale, mais la capitale régionale de cette région du Nord-Ouest. Mais il n'y a pas de voiture, aucune voiture ne circule, sauf les voitures de la police, de la gendarmerie et de l'armée. Au moment où vous m'appelez, il y a l'ambulance de l'hôpital qui vient de passer là avec à son bord le corps d'un jeune homme de l'université de Bamenda qui a été tué aujourd'hui lors des échauffourées entre les forces de sécurité et les manifestants.
Qu'est-ce qui est à l'origine de ces affrontements?
C'est des manifestants qui s'opposent à un meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, le parti au pouvoir, qui devait avoir un meeting de l'unité nationale. Même un meeting dit de l'unité nationale ici à Bamenda, après celui de Boya, il y a deux jours. Et ceux qui s'opposent ici s'opposent à l'un de leurs fils, le ministre chargé des missions à la présidente de la République, qui soutient qu'il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun. Pourtant, c'est tout le monde qui sait qu'il y y a un problème anglophone au Cameroun, et même le Premier ministre était il y a une semaine ici même pour rencontrer les syndicalistes, des avocats, des enseignants, pour essayer de désamorcer une grève des enseignants qui est en sa troisième semaine et des avocats qui est depuis deux mois déjà. Et le Premier ministre est en train de désamorcer la situation alors que le ministre était à Yaoundé sans qu'il n'y a pas de problème anglophone. C'est cela qui a provoqué donc les jeunes gens qui sont descendus dans la rue aujourd'hui à Bamenda.
Vous parlez d'une victime que vous avez vue. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui parlent d'autres morts?
Il y aurait eu un autre mort, un autre corps, mais j'ai vu un seul corps à la place de fête de Commercial Avenue où devait se tenir ce meeting, mais le feu a été mis de gauche à droite et c'est les forces de sécurité qui ont sécurisé la place de fête. Et alors, dans les eaux souffrées, ce jeune garçon a trouvé la mort.
Annie Collins, un témoin des violences à Bamenda au Cameroun.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Ghana, les premiers bulletins de vote dépouillés laissent prévoir un résultat très serré entre le président sortant John Dramani Mahama et son rival Nana Akufo-Addo. Des détails avec Nani Talani.
11 des 275 circonscriptions ont été jusqu'à présent comptabilisées selon la commission électorale. 7 candidats sont en lice, mais la bataille se joue entre les rivaux historiques. Le président sortant John Dramani Mahama, qui brigue un second mandat, a une très légère avance sur son rival Nana Akufo-Addo, qui se présente pour la troisième fois. Le site de la commission électorale ne fonctionnant pas, c'est sur Twitter que l'instance publie ses premiers résultats. Elle affirme qu'une double vérification doit avoir lieu vu les possibles bourrages d'urnes dans certains bureaux de vote. Tout le monde attend avec anxiété ces résultats qui devraient tomber au plus tôt ce soir et au plus tard samedi. Si aucun des deux principaux candidats ne remporte plus de 50% des voix, un second tour aura lieu courant décembre.
Politique aux États-Unis maintenant, le Parti démocrate s'interroge sur son avenir après la débâcle électorale de novembre qui lui a ravi la Maison-Blanche, tout en maintenant les républicains aux commandes des deux chambres du Congrès américain. Les précisions de Lionel Gaïma.
Dans le sillage de la défaite d'Hillary Clinton à la présidentielle face au républicain Donald Trump, les démocrates font leur examen des consciences, explique l'analyste John Fortier. Où le parti doit-il aller? Doit-il se tourner vers ses personnalités plus progressistes comme la sénatrice Elizabeth Warren du Massachusetts ou le sénateur Bernie Sanders du Vermont? Qui pousserait le parti plus à gauche ou dans la direction choisie par Hillary Clinton, c'est-à-dire plus au centre? Le sénateur Sanders semble impatient d'assumer un rôle clé dans ce processus, exhortant les démocrates à réexaminer leurs efforts en direction des électeurs de couches laborieuses. Ils sont des millions de personnes aujourd'hui, des gens de la classe ouvrière, de la classe moyenne, des gens de bas revenus vivant dans le désespoir. Le besoin de changement a été bien illustré par la tentative infructueuse du député Tim Ryan de l'Ohio de déboulonner Madame Nancy Pelosi de son poste de chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants. Je crois dans mon cœur, dit-il, que si nous comptons gagner en tant que démocrates, nous devons avoir un message économique ayant un impact dans tous les coins de ce pays. L'avenir du Parti démocrate est aussi au centre des préoccupations du président sortant Barack Obama. Il doit donc y avoir des valeurs clés, ne devant pas faire l'objet du débat, et qui doivent être notre toile polaire. Mais nous devons prendre le temps de réfléchir sur la manière de nous organiser. De nombreux blancs de la classe ouvrière ont voté pour Donald Trump, souligne l'analyste conservateur Fred Barnes. Trump a accompli ce qu'à mon avis, les républicains n'allaient peut-être jamais réussir, gagner la Pennsylvanie, l'Ohio, le Michigan et le Wisconsin, la ceinture industrielle qui compte tant de membres de la classe ouvrière, dont un bon nombre au chômage. Les démocrates du Congrès devront donc décider, après la cérémonie d'investiture présidentielle du 20 janvier, sur quel front ils s'opposeront à Donald Trump et sur quels autres ils trouveront un terrain d'entente.
Pour terminer le conflit en Syrie, les forces du régime syrien appuyées par des combattants étrangers poursuivent ce jeudi leur progrès vers les derniers quartiers rebelles d'Alep, la grande métropole du Nord, dont la conquête totale représenterait un tournant dans la guerre, selon le président syrien Bachar al-Assad. Moscou et les Américains qui soutiennent eux l'opposition à M. Assad n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur une issue à Alep, mais les contacts continuent. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.